Bonjour à chacun. Merci à l'équipe de louanges pour ce temps. Merci particulièrement au saxo. C'est du bien d'avoir un petit saxo qui swing comme ça. Ça nous met en joie. Mon épouse vous salue bien. Pour ceux qui la connaissent, elle n'est pas très bien ces temps. Donc voilà, elle a préféré prendre un peu le temps du repos. Ce matin, on a un programme qui est assez chargé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle toujours Pierre-Yves Zwalen, ça ne change pas. Il y a des choses qui demeurent ainsi dans la vie. Je travaille toujours à la Ligue pour la lecture de la Bible, où je suis responsable, entre autres, du secteur des éditions, où j'ai beaucoup de joie de travailler dans ce secteur. J'aime les livres, j'aime lire et j'aime écrire, et j'aime aussi, et c'est un peu nouveau, lire les nouveaux auteurs. Et on a beaucoup de joie à la Ligue d'accueillir un nombre assez important de nouveaux auteurs. Cette année, on va exploser notre coefficient de nouveauté. On va éditer à peu près 17 livres, ce qui pour une aussi petite maison d'édition que nous, qui se résume à moi, et à une secrétaire, et les deux, on travaille à temps très partiel sur ce programme-là, eh bien c'est vrai que ça correspond à beaucoup de travail, ça fait à peu près un livre et demi par mois. Ça veut dire qu'il faut pas mal bosser. Et puis vous savez, quand on édite un livre, eh bien ça c'est la partie, je dirais, facile, c'est de la technique finalement, technique d'écriture, technique de lecture, de correction, de graphisme, etc. Et puis après, on a le beau livre qui arrive depuis l'imprimerie, on est tout fier, et puis on le donne à l'équipe de communication. Et c'est à eux de faire le job pour vendre le livre. Parce que si vous faites seulement un livre et que vous le mettez dans votre stock, eh bien, il peut rester là pour l'éternité. Et c'est pas vraiment le but. Le but d'un livre est qu'il soit lu. Donc, voilà, on confie notre travail, notre sueur, notre génie, notre talent incroyable, on le confie à l'équipe de communication. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je suis un tout petit peu au taquet avec ça, parce que on a des livres qui sortent là ces temps, et je suis pas sûr que l'équipe de communication soit autant au taquet que moi. Et je suis un tout petit peu inquiet. Je vous signale juste, je fais un petit peu ma pub là, que nous serons au Salon du Livre le 30 avril, donc samedi, le dernier samedi de ce mois. Entre autres, on y sera tout le long du salon, mais le 30 avril à 16h, il y aura une table ronde au Square des auteurs avec 7 auteurs de la Ligue, 7 auteurs francophones de Suisse et de France, et on va parler sur le thème « Une spiritualité sous influence » avec un point d'interrogation à la fin, et on va essayer de débattre un tout petit peu pour voir est-ce que les styles d'écriture influence finalement notre lecture de la parole. Si on est dans la poésie, si on est dans le roman, si on est dans la méditation, dans l'étude théologique, est-ce que tout cela va influencer notre spiritualité ? Donc voilà, vous êtes invités cordialement à venir pour écouter ces brillants personnages parler à 16h au Square des auteurs, au Salon du Livre et de la Presse de Genève. Voilà, j'ai fait ma petite pub. Pour ceux qui n'aiment pas trop les livres, il y a aussi une verrille après, donc vous pouvez venir. Puisqu'on est à la com, ça m'a fait penser un peu, parce qu'il y a une semaine, on a vécu un événement un peu particulier, vous vous rappelez ? C'était Pâques, voilà, c'était Pâques. Et en relisant les textes de Pâques, avec la com, je me suis dit... Je me suis posé la question qui était responsable de la communication le jour de Pâques. Je me suis sérieusement posé cette question. Je me suis demandé s'il y avait un archange délégué à la communication au ciel, parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait eu un peu comme un bug. À Noël, ils avaient bien géré le truc, je trouvais. Il y avait les anges qui étaient là, la chorale, on a fait venir des gens de l'étranger pour ouvrir un tout petit peu le truc. Hein. Donc à Noël, ça a bien fonctionné, ils avaient bien travaillé. Ils avaient quand même travaillé très en amont aussi. Hein. Depuis des siècles, il y avait des gens, des prophètes, Ésaïe, Jérémie, tous ces gens-là qui ont commencé déjà à sensibiliser un tout petit peu le public par rapport à cet événement majeur. Enfin, ce n'est pas seulement un événement majeur, c'est l'événement. Vous êtes d'accord ? C'est l'événement de notre humanité, de l'histoire humaine. On peut, tout le reste est subordonné à cela, on est d'accord ? Donc c'est vraiment le truc, au niveau com, ils ont vraiment dû réfléchir à fond comment est-ce qu'ils allaient faire ça. Et puis, ben c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'un fiasco, quoi. Et depuis 2000 ans, on essaye de réparer ce fiasco. Parce que le jour de la résurrection, le matin de la résurrection, déjà faire ça le matin, je ne sais pas, il y a un problème de timing, le matin de bonne heure, les gens dorment. C'est difficile de faire venir les gens pour un événement majeur le matin de bonne heure. Hein. Vous voyez, notre conférence, on la met à 16h, on ne l'a pas mise à 6h30 du matin, il n'y aurait personne. Il faut être un tout petit peu... voilà. Donc, j'ai quand même un peu l'impression qu'il y avait vraiment un problème. Alors, en plus de ça, il y avait les rares personnes qui étaient là, quelques gardes, on les a endormis d'entrée. Hein, vous avez lu ça dimanche passé, vous êtes d'accord? On les a endormis d'entrée. Donc, il n'y a personne qui est là. L'événement majeur de l'histoire de l'humanité, et il n'y a personne qui est là. Moi, j'ai l'impression qu'au débriefing, au ciel, j'aurais pas voulu être l'archange chargé de la com. Hein. Je veux dire, ça devait être... le gars, il a dû être... Puis on peut pas répéter, c'est des choses... On les fait une fois, quoi. On peut pas... Nous, on aurait fait ça très, très différemment. On se serait un peu inspiré de ce qui s'est passé au Sinaï quand Dieu a donné la loi. Vous vous rappelez, hein, ça, pendant 40 jours, il y avait Dieu qui était là sur la montagne, et il y avait des ténèbres, des éclairs, du tonnerre, il y avait un son de cor continu, c'était le gros spectacle. On aurait pu imaginer que depuis le moment de la mort de Jésus jusqu'à la résurrection, ce soit un show constant, avec des signes dans le ciel, avec les anges qui chantent, avec l'armée céleste qui est là, avec vraiment, on fait venir les gens, on convoque la presse, on demande à Rome d'être là, parce que Rome, c'est quand même le vecteur de communication. Enfin, on fait les choses comme il faut. Nous, on aurait fait ça comme ça. Vous êtes d'accord, hein ? On aurait fait le show incroyable. Et puis, c'est vrai que, comme je le disais avant, on a l'impression que depuis 2000 ans, l'Église essaye de réparer ça. Parce que vous savez, quand il y a une mauvaise com', c'est très difficile de réparer. Moi, j'ai un livre qui a été comme ça, qui a eu une mauvaise sortie. Ben, il a fallu des mois pour réparer ça. C'est très, très difficile. C'est très difficile. Quand c'est mal parti, c'est très difficile. Et depuis 2000 ans, l'Église, elle rame pour essayer de réparer ça. Quand on sera au ciel, on ira trouver l'archange de la communication et on lui dira deux, trois choses. Si je vous dis tout ça, ce n'est pas juste pour faire une boutade, c'est pour nous essayer de nous faire réfléchir sur la manière dont on vit l'Église, dont on vit notre communication. Est-ce qu'on n'essaye pas aujourd'hui de faire du spectaculaire? Est-ce que si on avait les moyens de faire venir l'armée céleste, on ne le ferait pas? Si on avait les moyens de faire chanter la chorale céleste plutôt que le groupe de louanges, est-ce qu'on ne le ferait pas? On a envie que les gens sachent, on a envie que les gens voient, on a envie aujourd'hui de spectaculaire, on a envie d'être Hollywood en mieux. Et cette incroyable discrétion du matin de Pâques, quelque part elle nous dérange, elle nous interpelle. Alors on a envie de la changer, on a envie de l'effacer, on a envie de l'habiller aujourd'hui de choses plus spectaculaires, de choses plus incitantes, percutantes. Et pourtant, c'était la méthode de Dieu. Je ne crois pas qu'il y ait eu une erreur de communication. C'est la méthode de Dieu, cette incroyable discrétion. Et peut-être que, voilà, en tant qu'Église, il y a peut-être une réflexion à avoir ce matin sur la manière dont nous communiquons. Qu'est-ce que nous essayons de transmettre? Est-ce que nous essayons de transmettre du spectaculaire, comme beaucoup de choses en nous nous incitent à le faire, ou est-ce que nous essayons de nous soumettre finalement à l'option de Dieu et à marcher dans ses voies et à rester dans cette discrétion qui n'est pas de la non-puissance ou de la non-révélation, comme nous allons le voir dans la suite de notre réflexion. Puisqu'on est arrivé sur ces textes, on va rester, si vous êtes d'accord, sur ces textes de Pâques. Vous avez certainement réfléchi à Pâques la semaine passée, mais on peut réfléchir à Pâques un peu plus qu'un dimanche par année, n'est-ce pas? Et c'est vrai que ces textes, malheureusement, on les lit presque qu'une seule fois par année, alors qu'ils sont centraux dans notre vie de foi. Ils sont centraux dans notre vie de foi et on les limite trop souvent simplement à la fête du calendrier. Alors j'aimerais qu'on lise dans Jean 20, j'aime beaucoup ce récit de la résurrection dans l'évangile de Jean, parce que comme tout l'évangile de Jean, il est très humain, il est très au cœur des choses. Et en plus de ça, Jean est un auteur-acteur. C'est toujours intéressant de voir quand l'auteur se met lui-même en scène, quand il est au cœur du récit, parce qu'il n'est pas en train de raconter des choses qu'on lui a racontées ou de raconter des choses qu'il a compris dans son intelligence. Il est là en train de raconter quelque chose qu'il a vécu dans sa chair, dans sa chair. Et ça, je crois que c'est très intéressant de lire ce récit et de voir comment Jean a vécu cela. Jean 20, premier verset. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Première partie, premier épisode de cette découverte de la résurrection de Jésus. Pierre et Jean, répondant à l'appel de Marie de Magdala, se rendent au tombeau, ils courent de toute leur force. Quand j'étais enfant, il y avait dans la chambre à coucher de mes parents, au-dessus de la commode de ma maman, un tableau d'Eugène Burnand, je crois, Pierre et Jean se rendant au tombeau. Et on les voyait courir, hein. Alors il y a Pierre avec sa barbe, etc. Les plus anciens, vous connaissez ce tableau. Les plus jeunes, vous ne savez pas du tout de quoi je parle, mais ce n'est pas grave. Et puis, il y a Jean qui court dans une position totalement improbable, hein, pour être arrivé le premier, parce qu'il court les mains jointes, comme ça. Alors, essayez de courir les mains jointes et de courir vite les mains jointes, comme ça, question respiration, c'est pas extraordinaire. Mais ce qui m'avait toujours frappé en tant qu'enfant, c'est le regard de ces deux hommes. Ils ont un regard qui est empreint d'attente, de désir. Voilà, il y a la carte là derrière, magnifique, extraordinaire. Vous pourrez la découvrir à la sortie, peut-être même l'acheter, je ne sais pas. Hein. Ça, c'est pas acheté. D'accord. Ok. Il y a dans leur regard une forme d'inquiétude. Ça m'avait beaucoup frappé en tant qu'enfant. Une forme d'inquiétude. C'est pas Pierre et Jean qui courent vers le sapin de Noël. Vous savez, quand on est enfant et qu'on vous annonce que les cadeaux ont été mis sous le sapin et que vous courez pour voir vos cadeaux, alors là, il y a les yeux qui sont écarquillés. On court, on joint pas les mains, hein, on est vraiment en forme. Et puis les yeux sont écarquillés, il y a une attente, il y a un désir, mais il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'espérance, il y a beaucoup d'attente. Mais là, chez Pierre et Jean, j'avais un sentiment d'inquiétude quand je regardais ce tableau. Peut-être que je me trompe, peut-être que ce n'était pas l'intention de l'auteur, mais j'ai toujours été frappé par cela. Comme s'ils avaient peur de ce qu'ils allaient trouver dans ce tombeau. À l'annonce, d'après les récits que leur avait fait Marie de Magdala. Et quand ils arrivent les deux, décalés, parce que Jean a couru plus vite, c'est normal, il est plus jeune, donc il n'y a pas beaucoup de mérite, il est arrivé plus vite, Pierre arrive derrière, plus essoufflé. Mais Jean, qui a vu toutes les séries, les experts, NCIS, Bones, Castle, etc., savent que sur une scène de crime, il ne faut pas entrer. Hein, il faut s'arrêter, il faut regarder, il faut observer. Et on a vraiment l'impression d'être sur une scène de crime quand on lit ce récit-là du tombeau vide. Ils sont là, ils observent. Il y a les bandelettes dans un coin, il y a le linge qui est plié à part. Voilà, il y a toute une description extrêmement précise de ce qui s'est passé, de ce qu'ils voient, des différents éléments. Et puis il y a Pierre, bien sûr, qui arrive et qui bouscule Jean, qui rentre dans ce tombeau, qui met peut-être un peu de désordre, allez savoir. Mais Jean entre à son tour, finalement, pour être au cœur de l'événement. On est toujours dans cet état d'esprit presque scène de crime. Jésus n'est pas là. Et le texte nous dit, et c'est assez étonnant, parce que le texte nous dit simplement, je vous dis, il vit et il crut. Il vit et il crut. C'est un peu lapidaire comme définition, comme remarque. Hein. C'est un peu lapidaire. On est quand même face à l'événement majeur, incroyable. Il vit et il crut. Et la réaction, on aurait pu imaginer des cris, des alléluia, des c'est extraordinaire, des il est ressuscité, à la méthode russe, hein, Christ est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité, il s'embrasse, etc. Non, il vit et il crut, et ensuite, ils s'en retournèrent chez eux. Excusez-moi, mais c'est pas avec ça qu'on va gagner l'évangélisation du monde, hein? Il n'y a pas beaucoup de réactions. Il vit, il crut et il rentre à la maison. Et j'ai un peu l'impression de vivre nos cultes de Pâques. Il vit, il écouta, il crut. Bah oui, Jésus est ressuscité. Ouais. On mange quoi à midi ? Non, mais franchement, j'exagère. À peine. Il vit, il crut, rentra à la maison, roula les œufs, cacha les œufs, joua avec les enfants. Magnifique, on a une culture en Suisse, on a des œufs de couleur, on peut les cacher. Vous savez que c'est... Moi, je croyais que c'était universel, que tout le monde avait des œufs de couleur. Ben, pas du tout. Pas du tout. En France, je parlais hier soir avec mon beau-frère qui est français, ils n'ont pas des œufs de couleur. Imaginez Pâques sans œufs de couleur. C'est incroyable, ça. Quand même, nous, on a les œufs de couleur, on a les lapins en chocolat. En France, ils n'ont pas beaucoup de lapins. Il y en a un petit peu. Mais c'est difficile à trouver, les lapins en chocolat. Hein? Imaginez Pâques sans œufs de couleur, sans lapins en chocolat. Bien sûr, on a vu et on a cru. Voyez ce que je veux dire ? On reste dans la superficialité. Jean, Pierre, ils voient, ils croient. Mais qu'est-ce qu'ils voient et qu'est-ce qu'ils croient ? Ils ont vu et ils ont cru que le tombeau était vide. Nous sommes là simplement face à deux témoins d'un tombeau vide. Il n'y a pas de rencontre. Il n'y a pas de rencontre. Et c'est assez extraordinaire que Jésus, qui devait être dans le jardin, ne rencontre pas Pierre et Jean à ce moment-là. C'est assez étonnant. Ce jardin, c'était quand même pas Central Park, c'était pas un truc immense. On est à Jérusalem, c'est petit quand même. C'était pas si grand, il a dû même à la limite les entendre arriver. Il ne se révèle pas à eux, il ne s'approche pas d'eux. Et on a presque l'impression d'une espèce de non-révélation progressive. Jésus ne révèle pas sa résurrection aux puissants de ce monde. Il ne le révèle pas à Rome. Il ne le révèle pas aux prêtres. Il ne le révèle pas aux responsables militaires. Il ne le révèle pas aux autorités de la nation. Il ne révèle pas aux gens bien pensants. Il ne le révèle même pas, dans un premier temps, à ses disciples Pierre et Jean qui viennent dans le tombeau. Il ne se révèle pas à eux. Il va se révéler premièrement, et ça je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinairement important et qui est peut-être le cœur même du message de la résurrection de Jésus-Christ. Il se révèle premièrement à une femme qui pleure. À une femme qui pleure. Je me suis réveillé il y a quelques jours, un matin de cette semaine, avec dans la tête, cette chanson d'Arthur Ashe, « Je suis une femme qui pleure ». Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, très belle chanson d'Arthur Ashe. Et j'avais cette mélodie et j'avais cette voix très particulière de ce chanteur et qui répète tout le temps « Je suis simplement une femme qui pleure ». Et immédiatement, j'ai pensé à Marie de Magdala. Et je me suis dit « Mais voilà, c'est le comble de la société de l'époque hein, ». Pas aujourd'hui, mais dans la société de l'époque, c'est le comble de la faiblesse. On peut difficilement descendre plus bas. Vous connaissez cette prière juive qui dit entre autres « Je te remercie que je suis né homme et non pas esclave, homme libre et non pas femme, etc. » Je ne connais plus les textes comme ça. La femme, dans la société juive, elle était en bas. Elle était en bas. Et non seulement c'est une femme, mais en plus de ça, c'est une femme qui pleure. Donc une femme qui pleure, elle est défigurée, elle est plus très jolie, elle est pas au mieux de sa forme. C'est une femme qui pleure et c'est à elle que Jésus va se révéler en premier. La première rencontre du Christ ressuscité, il la dédie à une femme qui pleure. C'est-à-dire à un cœur qui a intensément, désespérément besoin de lui, besoin de lui. Un jour que je rentrais dans le TGV depuis Paris, quelques années de cela, même pas mal d'années de cela, j'étais pas au mieux de ma forme spirituelle. Et puis j'écoutais dans mes écouteurs, j'écoutais une vieille chanson de Chimène Badi qui dit « Ne dis pas le mot fin ». Je ne sais pas si quelques-uns connaissent encore cette chanson, « Ne dis pas le mot fin ». C'est l'histoire d'une femme qui est amoureuse et qui supplie son amant de ne pas mettre un terme à leur relation. « Ne dis pas le mot fin ». Et là, je pensais à ma relation avec Christ et tout d'un coup, je me disais, mais si Dieu prononçait le mot fin dans ma vie, si Dieu se désintéressait de moi, si Dieu se lassait de moi. Et je me rappelle avoir été étreint d'une douleur incroyable dans mon cœur. Non, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver. C'est quelque chose qui est insupportable. Et c'est difficile de pleurer dans le TGV parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Et sur un homme qui pleure, c'est plus gênant encore qu'une femme qui pleure. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais j'étais étreint d'une souffrance terrible. J'ai rarement souffert autant que cela dans mon cœur. Ne dis pas le mot fin. Et c'est comme si je ressentais tout ce que j'allais perdre s'il arrivait à un moment donné que Dieu dise le mot fin dans notre relation, que Dieu se détourne de moi. Et la souffrance était telle qu'elle était absolument, absolument insupportable. Et je crois que c'est quelque chose de cette dimension-là que Marie de Magdala a ressenti le matin de Pâques. Elle qui voyait non seulement la mort de Jésus, mais qui voyait en plus la disparition du corps de Jésus, elle qui était privée de tout, elle qui était acculée à la fin de quelque chose qu'elle ne pouvait pas supporter. Pas seulement au plan spirituel, mais aussi au plan relationnel. On dit beaucoup dans l'Église que l'amour est... Voilà, Jésus a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes enfants. L'amour est au cœur de nos relations ensemble, cœur de notre relation avec Dieu. Mais l'amour, ça se manifeste dans les tripes. L'amour, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. L'amour, ce n'est pas le fait de voir et de croire. L'amour, ça doit se passer là, à l'intérieur. Ça doit faire sortir nos sentiments. Ça doit faire jaillir les larmes. Ça doit nous faire crier de joie ou de désespoir. L'amour est un sentiment violent. L'amour est un sentiment exigeant. L'amour n'est pas calviniste. Pardon Calvin. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire étriqué, froid, calviniste dans le sens de ce qu'on l'a réduit à cela. Hein. Je pense que Calvin était bien autre chose que ça. Mais dans notre conception aujourd'hui, petit, froid, mesquin, non, c'est pas ça. Aimer, c'est autre chose. Aimer, c'est autre chose. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu continue de se révéler à ces femmes qui pleurent. Et là, je reprends la chanson d'Arthur H, parce que c'est un homme qui chante ça. Je suis une femme qui pleure. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui est bouleversé par l'amour, qui a besoin d'être aimé. On a chanté tout à l'heure, « Oh, j'ai besoin de toi ». J'aime ces chants où c'est marqué, « Oh, j'ai besoin de toi ». Mais on chante ça, « Oh, j'ai besoin de toi ». Voilà, « Oh, j'ai besoin de toi ». Puis ça ne veut rien dire, si on chante ça comme ça. Si vous dites ça à votre femme le matin, « Oh, j'ai besoin de toi », elle dira, « Va faire la vaisselle ». Je veux dire, c'est pas, on n'est pas dans la relation, on n'est pas dans le besoin, on n'est pas dans le désir, on est juste dans le politiquement correct. Mais la foi, c'est autre chose que cela. Et la résurrection, c'est autre chose que cela. C'est pas juste un corps qui ressuscite. C'est Dieu qui vient vers nous. C'est Dieu qui vient sur notre terre pour vivre avec nous. J'aime dire que Dieu est revenu sur terre pour prononcer le mot Marie. Jésus est revenu dans nos vies pour prononcer notre prénom. Mais il ne le fait que quand nous sommes une femme qui pleure. C'est-à-dire que quand nous osons aller au cœur de nos sentiments, que quand nous osons aller au fond de nous-mêmes, que quand nous osons sortir de nos tripes ce qu'il y a de plus terrible, mais aussi de plus beau, de plus exigeant. Marie, que les linges soient bien pliés dans le tombeau, malgré le fait qu'elle était une femme, ça ne l'intéressait pas. Elle n'a même pas vu ça. Ça ne l'intéressait pas. Parce que son besoin, son désir était ailleurs. Elle voulait Christ. Elle voulait le voir. Elle voulait lui parler. Elle voulait l'entendre. Elle voulait être consolée par lui. Elle avait besoin de lui. Besoin de lui. Et ça, c'est le sens profond du matin de Pâques. Le mystère de la résurrection se vit au cœur de nos souffrances, de nos faiblesses et de nos désirs. Je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ce matin, nous pouvons nous poser, nous devons peut-être même nous poser la question, quelle sorte de témoins sommes-nous ? Des témoins du tombeau vide ? Des gens qui savent intellectuellement et même spirituellement qu'effectivement Christ est ressuscité ? Voilà, c'est un fait avéré, c'est un fait prouvé dans notre vie avec une certaine relation avec lui, mais ce n'est pas un fait qui nous bouleverse. Comme Pierre et Jean, au matin de la résurrection, heureusement, ils ont eu d'autres rencontres, ils ont eu d'autres moments où ils ont pu changer leur relation avec le Christ. Où est-ce que nous sommes ce matin, un homme, une femme qui pleure, c'est-à-dire qui est profondément en besoin de Dieu. Est-ce que nous sommes cela, un homme est une femme ou une femme en profond besoin de Dieu. Si c'est le cas, alors il y a une rencontre pour nous. Il y a cette rencontre incroyable où le Christ vient et où il nous appelle par notre prénom. Vous avez remarqué qu'à Marie de Magdala, il n'a pas fait un immense discours. Il l'a simplement appelée par son prénom. Il lui a dit ce qui elle était. Il lui a rappelé son identité. Il lui a dit, dans ce regard, dans ce prénom murmuré, il lui a dit tout son amour. Et ça a suffi. Et ça a suffi. Un mot d'amour de la part de Dieu. Et nous sommes reconstruits. Et nous sommes, à notre tour, ressuscités. Et ça, c'est quelque chose qui a un pouvoir et une force incroyable. Et il n'y a pas besoin d'eux de Pâques pour cela. Il n'y a même pas besoin du matin de Pâques pour cela. Il y a besoin de plus que cela, de la présence de Jésus. Je vous invite à rester quelques instants dans le silence et à vous poser la question, ce matin, qui suis-je? Pierre? Jean? Un prêtre, un religieux, même pas présent, parce qu'il sait déjà ce qui va se passer, ce qui s'est passé, qui contrôle la situation. Est-ce que je suis Marie, un être en besoin profond d'une rencontre personnelle, d'une consolation, d'une réparation, d'une visitation? Est-ce que j'ai besoin ce matin de la présence, du regard, d'un mot de Jésus? Quelques instants de silence où nous pouvons vraiment nous poser ces questions. Jésus, en ce matin de Pâques, tu as voulu d'abord et prioritairement rencontrer Marie, cette femme qui avait tant besoin de toi. Et nous croyons que ce matin, tu as toujours au cœur la même priorité, rencontrer ceux et celles qui ont besoin de toi, tellement besoin de toi que la vie n'a aucun sens, tellement besoin de toi parce que les montagnes sont trop importantes, les soucis sont trop lourds à porter. Il y a tant de choses dans la vie qui rend la vie impossible. Alors ce matin, je te prie de nous rencontrer, nous tous qui avons besoin de toi, nous tous qui avons dans le cœur cette prière, ne dis pas le mot fin, reste avec nous, reviens-nous. Parle-nous, sois vivant dans notre cœur. Et nous te remercions parce que nous savons que tu vas prononcer notre prénom, tu vas nous rejoindre et nous aimer comme toi seul sais le faire. Amen. Amen.